Salut tout le monde, c'est Marie. L'épisode de Sologamy va bientôt commencer. Ce petit message, c'est juste pour vous informer que si vous souhaitez l'écouter directement en avant-première et sans publicité, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme réservée aux artistes et créatrices de contenu, par exemple de podcasts, comme moi. Pour un abonnement de 5€ par mois, vous soutenez mon travail et accédez à de nombreuses contreparties. Mon podcast Sologamy me demande plusieurs heures de travail par semaine. Ça fait déjà 4 ans que je travaille bénévolement pour produire tous les épisodes que vous écoutez gratuitement. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien financier pour continuer le podcast. Mon travail mérite une rémunération. Si vous en avez les moyens, rejoignez ma communauté Patreon à l'adresse suivante patreon.com/mariealbertfr. J'ai mis le lien dans la description du podcast. Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamy avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Marie sans filtre est un format d'épisode intime, féministe et politique. Ici, je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je vous présente un nouvel épisode au sujet de la dépendance affective, cette dépendance amoureuse à l'égard de personnes que je connais à peine. Je m'en suis enfin débarrassée et je vous explique comment dans cet épisode. Mais d'abord, je veux me présenter comme d'habitude. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis une aventurière journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Avant de vous parler de la dépendance affective, je cite un commentaire reçu au sujet de mon travail. Aujourd'hui, c'est Julie qui m'a écrit le 23 octobre 2022. Bravo, bravo, bravo pour ton site, ta newsletter, ton engagement, ton futur bouquin, que j'ai trop hâte de lire. J'ai été victime de violences verbales et physiques au sein de mon couple. J'ai mis longtemps à en parler et encore plus longtemps à arriver à partir. Depuis 7 ans, je suis partie et j'ai entrepris un long chemin vers moi-même. Ce qui me soutient, c'est d'être seule et de marcher seule. Donc forcément, quand je suis tombée sur un article de la revue Keizen parlant de toi, j'ai couru voir ton site. J'adore marcher seule, c'est ce qui me réaligne, me fortifie et me connecte à ma puissance. Cela m'a permis de construire une force en moi, une indépendance affective qui fait que je ne laisserai plus jamais un homme lever la main sur moi. Trop contente d'avoir croisé ton chemin, je vais tout de suite aller écouter tes podcasts. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. C'est un soutien énorme, je t'embrasse fort. Merci pour ce message Julie, merci pour ce message, ce parcours, ces compliments, c'est super. Maintenant, je vais revenir au sujet du jour qui traite justement d'indépendance affective. Comment j'éradique ma dépendance affective? Alors, d'abord, je voudrais définir ce que ça veut dire dépendance affective. Pour moi, la dépendance affective, c'est une drogue. J'ai la sensation de dépendre de quelqu'un d'autre pour me fournir en amour et en sexe. Lorsque cette personne s'éloigne, je souffre le martyre en attendant qu'elle revienne me donner de l'attention. J'ai commencé à ressentir de la dépendance affective en 2017, j'avais 23 ans. Je sortais de 5 ans de relations hétéro. Je me retrouvais célibataire et je cherchais à me remettre en couple à tout prix. Je souffrais vraiment de l'absence d'un partenaire. Alors j'ai rencontré des mecs, à l'époque je me croyais hétéro, dans des fêtes, dans mon entourage ou sur des applications de rencontres. Quand je parvenais à les séduire et à coucher avec eux, en général le premier soir, et si notre nuit se passait bien, je m'attachais à eux et je cherchais à les revoir. Ça n'a rien d'anormal jusque-là. Mais si le mec en face ne répondait pas à mes attentes ou mettait du temps, par exemple, il y a le classique breadcrumbing. Breadcrumb, ça veut dire miette de pain en anglais. Donc, c'est tous ces gars qui laissent des miettes de pain, mais guère plus, en guise d'attention. Bref, si le mec en face ne répondait pas à mes attentes ou mettait du temps, je me sentais devenir progressivement dépendante de lui, de son attention. Je ne pensais plus qu'à eux, à leurs réponses. Je regardais mon téléphone toutes les 2 minutes pour vérifier s'ils avaient vu ou répondu à mon dernier message. Je me remémorais notre nuit ensemble, je rêvais de nos retrouvailles. Je me sentais très, très angoissée et j'attendais ma prochaine prise de drogue avec impatience. Alors là, je parle des mecs au pluriel, mais je ne me sens dépendante affective que d'un mec à la fois, c'est bien assez. Depuis 2017, cette dépendance affective a pris des proportions délirantes. Une fois, j'ai suivi un mec à son travail, sans qu'il le sache, parce qu'il m'avait mis un lapin. Je voulais m'expliquer avec lui, et donc lui voler un peu d'attention par la même occasion. Quand je suis arrivée devant la boutique où il travaillait, j'ai ressenti de la honte et je suis rentrée chez moi. Une autre fois, j'ai passé des semaines à déprimer, à angoisser, à penser à un mec qui m'avait promis de m'envoyer une lettre mais qui ne le faisait pas. J'étais censée écrire mon livre La Puissance chez ma grand-mère dans le Tarn et je me revois chez elle dans sa baignoire à prendre un bain. Normalement, prendre un bain, c'est l'une de mes activités favorites sur cette terre. Et je me sentais la pire merde au monde. Je ressentais beaucoup d'angoisse, de colère et de tristesse. J'attendais désespérément qu'il m'envoie cette lettre qu'il ne m'avait pas encore envoyée. Parfois, j'avais envie de mourir. J'avais envie de disparaître pour ne plus souffrir. D'autres fois, j'ai pleuré en mangeant tellement je souffrais de l'absence de réponse d'un autre mec que j'avais rencontré 2 jours avant. Faut savoir que souvent, ma faim disparaît si je me sens dépendante affective, car mon attention n'est dirigée que vers ce mec et j'ai du mal à me nourrir. Vraiment, je pleure, j'ai pas faim, je mange 3 fois rien, alors qu'en temps normal, j'adore cuisiner et manger. Bref, cette dépendance affective, vous l'avez compris, a mis ma vie en danger parce que j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'ai énormément souffert, parfois pendant plusieurs mois, après avoir rencontré un mec quelconque qui m'avait dit un truc gentil en me léchant 3 secondes le téton. Je précise que je me sens dépendante de gars vraiment différents. Ils peuvent être moches, stupides, prétentieux, sympas. Vraiment, il n'y a aucun critère, mais plus ils me traitent mal, plus ils soufflent le chaud et le froid, plus ils me donnent des miettes de pain, plus je me sens dépendante. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense tout simplement que la dépendance affective, j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes, est liée à l'hétérosexualité, ce régime politique que je m'acharne à déconstruire dans ce podcast comme beaucoup de féministes. Mais je pourrais ressentir de la dépendance affective à l'égard de meufs ou de personnes trans, car les relations queer n'échappent pas à l'emprise de l'hétérosexualité, ce même régime politique auquel on ne peut pas échapper. Le patriarcat, les violences conjugales, ça existe aussi dans les relations queer. Mais bon, j'espère que c'est moins prégnant quand même. Bien sûr, dans un premier temps, j'ai décidé d'arrêter les relations avec les hommes cisgenres. Les hommes cisgenres, donc c'est les hommes qui s'identifient au genre qui leur a été attribué à la naissance, pour me protéger et sortir de cette dépendance affective. J'ai arrêté d'utiliser les applications de rencontre, j'ai essayé de pécho des meufs, c'est un échec à ce jour. La stratégie de l'abstinence, de la sologamie, du célibat politique est très utile, m'a été très utile pour me sauver la vie et la santé mentale à de multiples occasions. Mais sur le long terme, je suis toujours retombée dans les bras d'un nouveau gars. Parfois, après 1 an et demi d'abstinence, certains mecs m'ont tellement traumatisée que je n'ai pas baisé pendant 1 an et demi, ce qui est relativement long pour moi, mais je suis toujours retombée dans les bras d'un autre gars. Tout simplement parce que je cumule plusieurs points faibles. En plus de la dépendance affective, je tiens à citer l'hétérosexualité compulsive. Charmante expression, déjà étudiée par les féministes, qui désigne dans mon cas ma propension à tomber dans les bras, à pécho, le premier mec cis qui me regarde et s'intéresse un peu à moi en soirée. Ajoutons à cela un ou deux verres d'alcool et le tour est joué. Je veux l'embrasser et le ramener chez moi. Là encore, si j'arrive à le séduire et à coucher avec lui, et si la relation sexuelle se passe bien, je suis foutue, il va repartir chez lui, et je vais tomber dans la DEP, la dépendance affective. N'ayant pas encore trouvé de solution pour mon hétérosexualité compulsive, pourtant je ne suis pas hétéro mais pansexuelle, j'ai décidé de trouver une solution à ma dépendance affective, et c'est le sujet de l'épisode. Une solution non pas radicale, mais graduelle. Une solution progressive. Si j'estime que l'hétérosexualité, le patriarcat, les mecs cis ont une large responsabilité, si ce n'est toute la responsabilité, dans cette dépendance affective, coucou les Disney, coucou les princesses qui attendent leur prince pendant 150 ans, et coucou toutes les comédies romantiques de Noël. D'ailleurs, je déteste Noël. Je crois, malgré tout, que j'ai une marge de manœuvre. Non pas une responsabilité dans cette galère, mais une marge de manœuvre, une capacité à m'adapter, à sortir progressivement de la dépendance affective. On appelle ça une agentivité. J'ai du pouvoir. Ma stratégie de sortie de la dépendance affective, je vous la livre tout de suite. Elle est directement inspirée de ma stratégie de sortie des douleurs chroniques. À ce sujet, vous pouvez écouter l'épisode « Comment j'éradique mes douleurs sexuelles » que j'ai rediffusé la semaine dernière dans Sologamy. L'application Pathways, spécialisée dans les douleurs chroniques, a tout changé pour moi à l'été 2022. Après avoir soigné ma vestibulodynie, grâce à cette application, je l'ai appliquée à d'autres douleurs chroniques, comme mes tendinites au tendon d'Achille, puis à la dépendance affective. Après tout, il s'agit d'une douleur chronique également, même si elle est plus mentale que physique. Voici les étapes que j'ai suivies. Étape numéro 1. Reconnaître la dépendance affective, les sensations désagréables et les pensées négatives qui l'accompagnent. J'ai peur, j'angoisse, je me sens mal. Est-ce qu'il va me répondre? Est-ce qu'il va venir au date? Donc, ces pensées, elles m'assaillent et je peux reconnaître que ce sont des pensées. Étape numéro 2, accueillir la dépendance affective, les sensations désagréables et les pensées négatives sans les juger et paniquer outre mesure. Donc je me dis... Ok, j'ai l'habitude, je connais déjà ces pensées et ces sensations. Non, je ne vais pas en mourir. Étape numéro 3, me rassurer par des pensées positives. Je suis en sécurité, tout va bien, je n'ai pas besoin de l'amour de ce gars, je ne le connais pas, je me suffis à moi-même. Étape numéro 4, me répéter ces pensées positives jusqu'à ce qu'elles remplacent les pensées négatives et jusqu'à ce que mes crises d'angoisse cessent. Attention, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Étape numéro 5. Me questionner sur ma relation en cours. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce mec? Est-ce qu'il me plaît vraiment? Qu'est-ce que je lui trouve? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Breaking news. À ce moment-là, le voile de la dépendance affective s'ouvre et je me rends souvent compte que le mec en question ne me plaît même pas, physiquement ou mentalement ou les deux, et que je n'ai même pas envie de le revoir, de relationner avec lui. Étape numéro 6, me libérer de cette relation, si j'en ai envie. Par exemple, je peux larguer le mec par SMS avec toute la bienveillance du monde, sans le bloquer, on reste en bon terme, si possible. Ou alors, j'arrête simplement de lui parler et de le voir sans qu'une rupture ne soit actée. Ça se fait naturellement. Bon, ces 6 étapes, peut-être que vous avez envie de les relire, elles sont sur mon site internet mariealbert.info. Attention, cet épisode de podcast n'est pas un cours de développement personnel et je ne propose en aucun cas que vous appliquiez ce protocole à votre cas personnel. Il s'agit simplement de mon expérience et tant mieux si elle fait écho à la vôtre ou vous donne des idées. Et tant pis si vous trouvez ça totalement inutile et stupide. Bon, à savoir, ce déclic est arrivé 5 ans après avoir commencé une psychothérapie, lu des dizaines de livres, d'articles, de podcasts sur le sujet, échangé des centaines d'heures avec mes amis à ce sujet et réfléchi des milliers d'heures dans ma tête sur ce sujet. Donc, quand même, ça vient pas de nulle part. Maintenant, je dois appliquer ce protocole. Appliquons ce protocole. Pour être transparente, je l'ai déjà appliqué 3 fois en cette année 2023, cette année 2023 qui se termine au moment où vous écoutez ce podcast, sans doute. La première fois, je l'ai appliqué au mois de juin, la deuxième fois au mois de juillet et la troisième fois au mois d'octobre 2023. Ce protocole est donc validé, hein, ça m'a permis d'éradiquer ma dépendance affective avec ces trois hommes dans ces trois cas très différents. Mais on verra en 2024 s'il tient encore la route. Je pense qu'on pourra vraiment dire que je suis sortie de la dépendance affective dans 5-6 ans peut-être. Mais pour l'instant, je me sens bien, je me sens en sécurité et je ne relationne avec personne et tout va bien. Et au sujet des douleurs chroniques dont je parle dans l'épisode précédent, comment j'éradique mes douleurs sexuelles, eh bien, à l'été 2022, quand j'ai commencé à faire ce travail grâce à l'application Pathways, cette application est uniquement en anglais, eh bien, depuis 2022, j'ai fait l'épisode et je n'ai quasiment plus aucune douleur chronique. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, ça peut vraiment marcher, mais il faut s'investir sur le long terme et ne pas vouloir que tout disparaisse du jour au lendemain. En tout cas, c'est ma vision. Je vais maintenant vous raconter ces trois applications du protocole, ces trois histoires hétéro, criscrips, ça va être croquant comme on dit. Voilà, c'est parti pour les trois applications de l'année 2023. Alors, au mois de juin, c'est l'application la plus intéressante puisque c'est la première fois. Je suis allée à la Pride de Cherbourg puisque c'était la première marche des fiertés de la ville de Cherbourg. J'ai emménagé à Cherbourg il y a un an. Et donc, au mois de juin, on a fait notre marche des fiertés et après, on a fait un village des fiertés avec plein de stands. Et moi, j'étais bénévole à la buvette. Ensuite, on est allé en boîte de nuit. Enfin, du coup, les rares bénévoles qui étaient encore motivés pour aller en boîte de nuit à Cherbourg. Enfin, en boîte de nuit, on est allé, en bar-boîte, quoi. Et à Cherbourg, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même. Et plutôt que de pécho une personne queer, puisque c'était la Pride, j'ai pécho un mec cis, blanc, hétéro. Non, il n'est pas hétéro. Il n'est pas hétéro. Bon, bref. Un mec cis, quoi. Et en fait, beaucoup plus âgé que moi. Mais en fait, il dansait super bien. Et c'était vraiment cool de voir un mec qui dansait bien. Du coup, j'ai dansé avec lui pendant toute la nuit. Enfin, pendant une partie de la nuit. On a changé plein de fois de boîte. Et au bout d'un moment, je l'ai pécho. Enfin, pour moi, pécho, ça veut dire embrasser. Hein, on se calme. Et ensuite, on est allé chez moi, on a couché ensemble et c'était très cool parce que le gars était vraiment super expressif. Donc, on voyait vraiment quand il avait du plaisir, ce qui change tous les gars qui ne font pas un seul son quand on baise. Et puis après, le lendemain, il est parti en fait, hein, vu que nous sommes des êtres distincts et que nous ne vivons pas collés. Et donc, j'avais trop peur de souffrir de dépendance affective puisque on s'était décollé et que ça s'était bien passé et donc je le kiffais, quoi. Et donc moi, ce que je fais dans ces cas-là pour me protéger, c'est que je ne demande absolument pas le numéro du mec, sachant qu'il habitait littéralement à 300 mètres de chez moi. Et en fait, il a pris mon numéro. Et il m'a demandé, je veux dire, je lui ai dit oui. Donc je lui ai donné mon numéro et en fait, il m'a envoyé un message. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas un mec qui m'a donné des miettes de pain. C'est la première fois depuis longtemps que c'était un mec qui faisait ce qu'il disait, quoi. Tu vas me dire, c'est le minimum syndical. Mais du coup, il m'a dit, oh, je prends ton numéro, je t'envoie un message ce soir parce qu'il bossait toute la journée. Et le soir, effectivement, il m'a envoyé un message. Donc, il m'a dit qu'il avait grave kiffé et tout, il voulait qu'on se revoie. Je me rappelle plus trop des détails parce que c'était quand même il y a 6 mois. Mais en gros, on est allé faire un pique-nique le jour d'après dans les dunes de Biville, donc dans la Manche, pas loin de chez nous. Il m'a emmené en voiture et on a baisé dans les dunes. Enfin, on s'est pécho, quoi. Et on a pique-niqué, c'était trop bien. Et puis après, donc j'étais vraiment à fond, même si bon, il y avait déjà des trucs qui allaient pas, des trucs qu'il disait sur lesquels j'étais pas d'accord et tout politiquement, mais voilà, c'est un autre sujet. Et après, en fait, il devait venir 2 jours après dîner chez moi. Je l'avais invité à dîner chez moi. Et donc là, maxi crise d'angoisse. Il répondait à mes messages, tu vois, mais on s'envoyait pas non plus des tas de messages et je me sentais hyper dépendante affective. Et je vais en courant chez ma psy le mercredi, donc avant qu'il vienne dîner chez moi. Et je parle à ma psy de ça et vraiment, on a parlé, mais elle m'a pas donné des solutions clés en main. Mais je suis sortie de chez elle et je me suis dit, mais tiens, si j'appliquais pas ce que j'ai déjà appliqué pour les douleurs chroniques à la dépendance affective, c'est-à-dire accueillir ses crises d'angoisse, accueillir ses pensées négatives, comme je viens de le dire juste avant, mais essayer de les remplacer par des pensées positives. Et donc, je suis rentrée de la psy en courant chez moi. Ça dure quand même 1 heure ou 45 minutes. Et j'arrêtais pas de me dire, je suis en sécurité, j'ai pas besoin de lui, je le connais même pas, j'ai pas besoin de sa validation, j'ai pas besoin de son amour, tout va bien, je suis en sécurité, il va venir dîner chez moi, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et en fait, au bout d'un moment, bah ma crise d'angoisse, elle passait. Alors peut-être qu'une heure après, elle recommençait, mais à chaque fois, je me rassurais avec une nouvelle salve de pensées positives. Et le mercredi soir, il est venu dîner chez moi. Et en fait, d'avoir fait ce travail contre la dépendance affective, ça faisait que je me sentais beaucoup moins en danger, en insécurité. Et comme je disais, le voile de la dépendance s'est levé, s'est ouvert, et j'ai pu voir le mec tel qu'il était vraiment. Et en fait, j'ai passé une soirée vraiment pas top, parce que je me suis rendu compte qu'il me plaisait pas. Et même quand il parlait, en fait, il avait passé une journée compliquée et du coup, il était super triste et il voulait parler. Il voulait se décharger comme si j'étais une psy. Il voulait se décharger toute son humeur négative. Et moi, j'avais pas la place pour parler de ma dépendance affective et puis j'avais pas forcément envie de l'en parler. Et en même temps, j'avais pas envie de faire ça psy. Du coup, je lui dis, non, du coup, me raconte pas. Sauf que lui, il s'en foutait, il me racontait quand même et il se mettait à chialer et tout. J'étais en mode, this is trop intense. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas envie d'être sa psy, j'avais pas envie de relationner avec lui parce que je voyais qu'il allait un peu se servir de moi comme un déversoir, enfin, comme à peu près tous les mecs cis avec leur meuf, tu vois. Mais moi, j'avais pas du tout envie de ça. Et puis ça faisait tellement longtemps que j'étais célibataire, enfin, je le sentais pas. Et puis après, on est allé baiser, et en fait, je me suis rendu compte qu'il me plaisait même plus physiquement, je le trouvais moche et tout. Enfin, vraiment, il m'attirait même plus, j'avais plus envie de le toucher. Et donc, on baisait, mais ça me dégoûtait, tu vois. Et franchement, moi qui adore le sexe et qui me sens toujours dépendante affective, donc en mode, c'est ma drogue, là, je me suis rendu compte que j'avais pas envie. C'était horrible. Après, il m'a rien forcé du tout mais je l'ai un peu foutu dehors parce que je disais, oh, il est tard, il faut que tu rentres chez toi. Ce que je ne fais jamais, tu vois. Et il est parti, et là, je me suis dit, oh non, il faut que je le largue. Et du coup, le lendemain, j'ai envoyé un message. Bon, ça faisait que 4 jours qu'on se connaissait, ou 5 jours, mais c'était horrible, quoi, parce que il m'avait dit, si tu veux, on peut se voir dimanche, et puis on peut se voir toute la journée. Enfin, voilà, il voulait vachement me rassurer par rapport à la dépendance affective, et il voulait vachement qu'on se voit et tout. Et moi, le lendemain, j'ai envoyé un message pour le rompre, et il était en mode, écoute, je suis pas vraiment étonnée, parce que pour lui, c'était inespéré ce qui se passait, il y croyait pas tellement c'était stylé. Et du coup, il s'était préparé à ce que je le largue, quoi. Alors que pendant toute la relation, c'était moi qui avais peur qu'il me largue. Enfin, bref.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
C'est horrible de larguer les gens, mais bon, il y a déjà eu un épisode de Sologamy sur ce sujet, même plusieurs. Et donc voilà, je l'ai quitté non pas parce que je souffrais trop ou parce que c'était un mauvais gars, tu vois, c'est juste qu'il me plaisait pas. Et en fait, il avait suffi que je retire le voile de la dépendance affective, que je me rassure toute seule, comme une grande, pour que je vois ce mec tel qu'il était et qu'on n'était pas du tout compatibles et qu'on n'avait même pas spécialement de points communs. Enfin, voilà, moi j'ai très peu de points communs avec la plupart des mecs cis, en fait. Et donc, pourquoi je voudrais relationner avec eux, ça n'a aucun sens. Voilà, donc ça, c'était juin. Et c'était trop cool parce que du coup, on est resté en bon terme. Et après, il m'a souhaité mon anniversaire, mais c'était pas lourd. Et après, il m'a félicité pour ma traversée des Pyrénées. Enfin, voilà, maintenant, on se parle plus. Mais je veux dire, je l'ai pas recroisé alors qu'il habite juste à côté de chez moi. Peut-être que je le recroiserai. Mais tu vois, je suis en bon terme. Du coup, je suis pas inquiète en mode, oh mon Dieu, je vais le revoir. Alors qu'il y avait un gars avec qui j'avais baisé il y a un an tout pile à Cherbourg. Quand j'étais arrivée à Cherbourg, en décembre 2023, j'avais baisé un gars que j'avais rencontré dans un bar un soir de fête, un soir de match de la Coupe du Monde de foot. Et j'avais raconté ça dans l'épisode de Je baise et je dis je t'aime le premier soir. Et en fait, j'étais super dépendante affective de lui. C'était passé super mal. Il m'avait super maltraité et tout. Miette de pain. Et du coup, je m'étais auto-larguée comme d'habitude pour me protéger parce que je souffrais trop. Et du coup, ce mec-là, j'aurais trop peur de le recroiser dans les rues de Cherbourg. Alors qu'on n'est pas en mauvais terme non plus. Mais j'aurais trop peur parce que j'aurais trop peur que ma dépendance affective, elle s'emballe à nouveau pour lui parce que ça s'est fini comme si j'arrachais un pansement. Alors que là, maintenant, avec cette histoire du gars au mois de juin, bah si je le recroise, je suis OK parce qu'en fait, on est en bon terme et j'ai pas souffert, quoi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'était au mois de juin. Maintenant, au mois de juillet, j'ai déjà raconté aussi cette histoire dans mon podcast Sologamy cet été sur le Survivor Tour, dans un des épisodes. Donc en juillet, je pars dans les Pyrénées pour continuer mon Tour de France à pied, qui s'appelle le Survivor Tour. Et je rencontre au bout de 3 jours un mec, un randonneur, et on baise au bout d'un moment. Et le gars, je le trouve super beau. Vraiment, il m'excite de ouf, mais moralement, quand il parle, il est anti-féministe, il a des propos racistes, enfin, il est absolument pas déconstruit. C'est un mec blanc, cis, hétéro, quoi, de base. Et donc, on a une nuit ensemble, et après, on se quitte parce qu'on marche pas à la même vitesse, et que, voilà, lui, il continue les Pyrénées, et moi, je continue un peu derrière. Et en fait, lui, il voudrait continuer à relationner avec moi. Mais en fait, moi, tout de suite, avant même de me laisser entraîner dans la dépendance affective, j'ai vu que politiquement, on n'avait pas les mêmes positionnements, les mêmes opinions. Et que enfin, lui, il voulait se déconstruire, il disait qu'il voulait apprendre et tout, mais il a genre 3 ans de plus que moi, j'ai rien à lui apprendre, en fait, il peut apprendre tout seul. Merci, au revoir. Donc, en gros, il voulait que je lui apprenne le féminisme, sauf que dès que je lui parlais de féminisme, il se foutait de ma gueule. Donc, je savais que ça n'allait nulle part et que j'allais me faire chier dans cette relation. Donc, je lui ai dit, bah non, en fait, on va pas relationner, on va pas s'écrire, tu m'écris pas et tout. Et donc, direct, dès le début, la relation, j'ai su que même si je le trouvais stylé, beau, sexuellement, on était compatibles et tout... Enfin, en tout cas, on avait baisé une fois, c'était cool. Même si j'avais un crush sur lui, voilà, disons les termes, ça n'allait pas le faire sur le long terme parce que j'avais la flemme d'être avec lui et il allait me saouler au bout de 2 secondes, quoi. Donc, j'ai direct pris le recul, direct enlevé le voile de la dépendance affective et on n'a pas relationné. Et du coup, j'avais pas souffert et on est en bon terme. Pareil, si je le recroise, il n'y a pas de souci, en fait. Et par contre, les jours d'après, les semaines d'après, même tout l'été, on va pas se mentir, c'est pas que j'arrêtais pas de penser à lui, mais j'ai beaucoup pensé à lui. Parce que tout le reste des Pyrénées, j'étais plus ou moins toute seule. Je passais quand même beaucoup d'heures à marcher, à penser, j'étais dans ma tente, à dormir seule. Enfin voilà, j'avais beaucoup, 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 beaucoup de temps pour réfléchir. Et donc, je me remémorais, comme je disais tout à l'heure, je me remettais en boucle notre nuit d'amour. Et je me disais, enfin, j'idéalisais notre nuit d'amour. Je gardais plus que les bons côtés de notre relation. J'étais en mode, ah, vraiment, il est trop beau, il est trop stylé. Alors même qu'aujourd'hui, je ne me rappelle même plus de son visage, hein. Et que si je suis objective, la relation sexuelle n'était pas ouf, en fait. Mais, et qu'il est pas si beau, en fait. Mais j'avais quand même un crush. Et du coup, tout l'été, je me servais un peu de lui comme un doudou mental où je repensais à cette relation. Mais j'étais tentée de lui écrire, mais j'étais pas vraiment tentée de lui écrire. En fait, je savais que j'allais être déçue et que ça servait à rien. Donc en fait, j'ai un peu souffert dans le sens nostalgie, je repense à cette relation, mais j'ai pas souffert dans le sens dépendance affective parce que j'attendais rien de lui en fait. Et j'ai dû me sevrer toute seule et maintenant je ne pense jamais à lui, mais voilà, c'est intéressant comme deuxième exemple. Et le dernier exemple, c'était au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, je reviens à Cherbourg, je finis les Pyrénées, je suis éclatée et moi, plutôt que de me reposer, ça aussi je voulais vous le dire, j'aurais dû me reposer. En fait, j'aurais dû arriver à Cherbourg et prendre... j'avais prévu des vacances au sens où je reprends pas le travail directement. Mon travail, moi, c'est d'écrire des articles, d'écrire des livres, de publier ces podcasts, de compter les infanticides en France, de publier sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai plein de tâches et je suis sur mon ordi toute seule la plupart du temps chez moi. Et quand je reviens de Survivor Tour d'aventure, je me mets 2 semaines de vacances où je travaille pas parce que sinon j'explose. Mais j'avais pas prévu de me re- poser, de me reposer physiquement. Alors que c'est au moins aussi important, quoi. Et du coup, j'ai repris le sport direct parce que je voulais reprendre la course à pied parce que j'ai commencé à courir l'année dernière et j'adorais. Et je voulais faire un marathon cette année. Et du coup, j'ai repris direct le sport. Et ça s'est mal passé parce qu'en fait, j'étais pas assez en forme. Donc, je suis tombée malade, etc. Et donc, au bout de 3 jours que je suis revenue, je vais au CrossFit. En gros, je fais du sport en extérieur avec des gens à Cherbourg, dans le centre-ville. Une fois par semaine, on fait... Enfin, c'est pas vraiment du CrossFit, mais on fait des exercices dans l'espace public. Donc, des squats, des pompes, des fentes, des burpees, des jumping jacks, enfin voilà, des trucs du gainage, enfin des trucs comme ça. On utilise le mobilier urbain pour courir et faire des exercices, des sauts et tout. Donc ça muscle tout le corps, c'est cool. Et donc 3 jours après être revenue, plutôt que me reposer, je vais au CrossFit. Donc c'est à 19h le vendredi. Et là, je rencontre un gars. Et en fait, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il y avait des nouveaux, en fait. Et donc il y a un nouveau gars qui est là. Et on fait la séance et après on va au bar, puisque après on va tout le temps au bar pour boire des bières. Et contrairement à tous les autres gars du groupe qui ne me posent presque jamais aucune question sur moi, enfin vraiment qu'on n'a rien à foutre de ma gueule, lui, c'est surtout des gars en plus dans le groupe, lui, il me pose direct plein de questions, parce que je viens de traverser les Pyrénées et tout, il s'intéresse de ouf à mon métier, il me pose plein de questions. Et donc, je suis refaite. Et comme je disais dans l'épisode, bah, en fait, dès qu'un méga juste me regarde gentiment et me pose une question, moi, j'ai l'impression que c'est l'homme de ma vie, quoi. La barre est si basse. Et donc, on parle toute la soirée et il me pose plein de questions et on discute de plein de trucs et c'est trop bien, il est trop sympa. Et après, vu qu'il gagne bien sa vie, je lui demande de me payer des pintes et donc il me paye pinte sur pinte, donc je suis arrachée. Après, on va dans un autre bar. Après, on va encore dans un autre bar et finalement, on va chez lui. Et bah clairement j'avais envie de le baiser quoi. Et donc au bout d'un moment on baise et bon c'était cool mais pas extraordinaire, enfin comme d'habitude avec les mecs cis. Et après je dors chez lui, grave erreur car je n'arrive jamais à dormir chez les mecs. Donc je dors pas quoi et le lendemain on rebaise. Et là moi faut quand même savoir qu'on avait fait du sport la veille et qu'on ne s'était pas douché depuis le CrossFit hein. Donc on était vraiment dans un sale état, on n'avait quasiment pas dormi. Et là, on était tous les deux en mode « Oh, faut que je prenne une douche ». Et donc moi, je lui dis « Bah, si tu veux, on prend une douche ensemble. » Genre dans sa douche, quoi, elle était immense. Et il me dit « Non, je suis pas trop chaud ». Et là, moi, je suis tellement habituée à ce que les mecs, littéralement, se forcent pour baiser avec moi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gars, ils ont une injonction à « S'il y a une meuf qui vous tend une perche, vous êtes obligés de la prendre ». Et donc, je me suis très peu pris de râteau dans ma vie. Et les mecs, souvent, soit ils se forcent à coucher avec moi, soit ils veulent coucher avec moi. Mais du coup, c'est très rare que des mecs me disent « bah non ». Et donc là, je lui demande s'il veut prendre une douche. Et il me dit « non ». Du coup, je le prends personnellement comme si ça voulait dire qu'il me déteste et tout. Et donc, je dis « ah, ok, pas de souci ». Et je pars. Et là, je rentre chez moi et j'étais en gueule de bois. J'étais pas encore malade, ou j'allais être malade le jour d'après. J'étais épuisée, j'avais pas dormi, et j'avais l'impression d'être une merde, et je me sentais dépendante affective de lui. Et là, pire situation, c'est-à-dire que le gars m'envoie un message le soir pour me dire qu'en fait, c'était trop cool, et qu'il m'aime bien, et tout, et que c'était sympa, et qu'il est content de m'avoir rencontré et tout. Et on se dit qu'on va se revoir le vendredi d'après au CrossFit. Donc là, vous voyez venir le scénario d'enfer où... Le problème aussi, c'est que moi, quand je lui réponds, lui, parce que je lui réponds sur Messenger, et lui, à chaque fois que je lui réponds sur Messenger, il met genre 2 jours à me répondre, 48 heures. Donc, vous voyez le scénario du mec qui donne des miettes de pain. À chaque fois, il me répond, il est genre 22 heures. Vraiment, il fait ça quand il a rien de mieux à faire. Et à chaque fois, il relance la conversation en posant des questions et tout, et on prévoit de se revoir au CrossFit. Donc, le scénario est cauchemardesque, parce qu'on pourrait penser que je vais devenir me sentir dépendante affective de lui, que je vais m'attacher à lui, et que le vendredi, quand je vais aller au CrossFit, voilà, je vais pas pouvoir l'oublier, on va se revoir et tout. Eh bien, pas du tout. Ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que le mec mettait 48 heures à me répondre, et moi, j'ai la flemme des miettes de pain. Je sais très bien que c'est un énorme red flag. Et que je refuse de relationner avec des gens, que ce soit amoureusement, amicalement, enfin en tout cas amoureusement avec des mecs cis, je refuse de relationner avec eux si dès le début de la relation, ils me répondent au bout de 48 heures, enfin c'est mort. Surtout qu'on parlait d'une petite question. Hein. Soit ils répondent pas, ils ont le droit de pas répondre, mais répondre au bout de 48 heures, tu te fous de ma gueule, tu vois. Sachant qu'il était tout le temps sur son téléphone quand on était ensemble, hein, c'est pas un gars qui est déconnecté. Et donc j'avais la flemme. c'est mon choix, j'ai besoin de gens qui me répondent dans un délai raisonnable. Et donc je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie de relationner avec ce gars parce que il me répond au bout de 48 heures. Faut savoir aussi qu'il mesure peut-être 10 cm ou 20 cm de moins que moi. Enfin, en tout cas, il est plus petit que moi, peut-être 10 cm de... Enfin, il est plus petit que moi. Ça, c'est assez original, mais bon, je m'en fous. Et du coup, c'est plutôt ça qui m'a saoulé, le fait qu'il réponde pas au message ou qu'il réponde 48 heures après. Et du coup, bah, j'ai décidé de couper court la conversation. Je lui aurais juste répondu un truc et puis c'est tout, quoi. Et il me relançait pas forcément. Et puis, les vendredis d'après, il est jamais revenu au CrossFit. Donc, j'ai pas eu le problème d'avoir envie de recoucher avec lui. Voilà, donc il habite à Cherbourg. Sûrement que je le recroiserai, mais on est en très bon terme. Et je ne suis même pas sûre qu'on soit fait pour coucher ensemble. Je pense qu'il est très sympa, donc on pourrait juste être potes, en fait. Je suis pas sûre qu'il y ait plus entre nous. Mais est-ce que vous voyez la différence? Pour moi, la différence, elle est énorme. Hein, avant, quand vous écoutiez les épisodes de Marie Saint-Phil ou de Sologamie, je vous racontais que j'étais au pied d'un mec qui me traitait comme de la merde et que j'avais mis des semaines, des mois à m'en remettre. Et aujourd'hui, je rencontre n'importe quel gars dans n'importe quelle condition, des mecs différents, il se passe des choses différentes à des endroits différents et j'arrive à prendre du recul. Et comme je vous le dis, à chaque fois que j'ai une crise d'angoisse liée à ma dépendance affective, je me remets en sécurité toute seule. Et je me rassure avec des pensées positives. Je suis en sécurité, je n'ai pas besoin de lui, tout va bien. Et je me demande si vraiment ce mec m'intéresse. Et il y a toujours des red flags, il y a toujours des trucs qui ne vont pas, il y a toujours des trucs qui me gênent. Et la flemme, quoi. Voilà, je clôt cet épisode avec ces histoires positives. J'espère qu'il y en aura plein d'autres, ou pas. Je me souhaite que la dépendance affective sorte de ma vie. Ou que j'arrive à la gérer la mieux possible dans les mois, années à venir. Je crois vraiment en moi. J'en ai beaucoup souffert pendant 6 ans. Encore une fois, cette souffrance n'est pas à prendre à la légère. C'est un problème politique, une question de santé publique. Si vous souffrez de dépendance affective, je vous souhaite d'être accompagné, de ne pas vous isoler et de trouver votre voie pour en sortir. Nous n'avons pas besoin de la validation d'autrui. Nous n'avons pas besoin de lui sucer le sang. Nous méritons de plus belles relations basées sur un amour et un respect réciproque. Nous méritons aussi de ne vivre aucune relation amoureuse si ça nous chante et que c'est ok. On a besoin de personne. Besoin de personne. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite aussi à le partager avec vos proches ou sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes épisodes de Sologamie toute l'année 2023, puisqu'on a explosé tous les scores d'audience, d'écoute, notamment sur Spotify. Vous pouvez aller voir le bilan des écoutes sur le compte Instagram de Sologamie, Sologamie Podcast, et vous verrez les chiffres. C'est impressionnant, puisque c'est aussi l'année où je suis passée à un épisode par semaine. C'est aussi l'été où j'ai fait le Survivor Tour, la traversée des Pyrénées, et ça fait énormément d'écoute. Donc merci pour votre présence, merci pour votre soutien. En particulier, merci à toutes les personnes qui donnent de l'argent sur Patreon. Et je ferai bientôt un épisode bilan pour parler de ces 3 années de sologamie et des projets à venir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.